grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et puis, puisque c'est la période des cadeaux et des contes, eh bien, je vais vous faire un cadeau en vous faisant écouter des contes. Et ceci avec l'aide de Nouka Maximoff. Ces contes, je les ai enregistrés l'année dernière, pendant mon séjour au Sainte-Marie-de-la-Mer, où Nouka racontait ces contes tziganes. Mais écoutez plutôt.
Chavale, andazare, catare, bucare. Ah, romale,
mes histoires commencent parfois par chez nous les Roms, parce que vous savez, moi j'ai été élevée chez les Roms. Mon père étant un Rom, moitié Manouche, mais moi j'ai été élevée quand j'étais enfant chez les Roms. Donc c'est ma famille. C'est pour ça que je dis toujours chez nous les Roms et que je raconte souvent des histoires de Roms. Quoique je raconte aussi des histoires de Manouche et de Gitan. C'est selon ce que j'ai envie en fait. Et chez nous les Roms, donc, il y a un jeune homme qui s'appelait Calo. On l'appelait Calo Dante. Sûrement qu'il était d'une famille qui s'appelait Dante. Enfin, il s'appelait Calo Dante, lui. Et ce jeune homme, Calo Dante, comment dire, il était jeune, il était beau, bien fait de sa personne, il était intelligent, il était brave, courageux, il savait travailler, c'était un excellent artisan. Et sa famille était assez riche, enfin je veux dire assez riche pour une famille de tziganes. Il vivait dans un village tzigane, alors peut-être quelque part en Roumanie ou dans ces régions-là. C'était il y a longtemps, hein, il y a très longtemps quand même. Donc je ne sais plus trop, on ne sait plus trop hein, les histoires où ça se passe. Enfin ce Calodante, il avait tout pour lui, pour être heureux dans la vie. Seulement, il y a une chose qui était embêtante, c'est que lui, ce qu'il aimait, il ne voulait pas rester au village. Ce qu'il aimait par-dessous tout, Calodante, c'était partir à l'aventure, il prenait son cheval. Et alors là, il courait à travers tout le pays. Ce qu'il aimait, c'était rencontrer des gens qu'il ne connaissait pas, c'était apprendre des langues nouvelles, c'était voir des villes et des villages où il pouvait visiter tout un tas de choses, apprendre des métiers qu'il ne connaissait pas. Et lui, il avait soif d'aventure. Et il prenait son cheval et il était tout le temps à droite, à gauche sur les routes. Seulement, à chaque fois qu'il revenait de ses voyages, sa mère était là sur le pas de la porte qui l'attendait. Et elle gémissait à chaque fois qu'elle le voyait, après l'avoir embrassé. Elle lui disait « Mais Callot, Callot, pourquoi n'es-tu pas encore marié? Regarde, tes frères, tes sœurs, ils sont tous mariés. Toi, t'es le plus vieux, t'es pas encore marié. C'est pas raisonnable, Callot Dante. Marie-toi, mon fils, marie-toi. Regarde, tu es beau, tu es jeune, tu es intelligent, tu es même riche. Toutes les jeunes filles du village te couvrent des yeux. Elles aimeraient toutes que tu viennes faire ta demande. » Marie-toi, mon fils, marie-toi, mon fils. Sans cesse, elle se lamentait à chaque fois qu'il revenait. Alors, un jour, n'y tenant plus, en rentrant de voyage, il lui a dit, d'accord, maman, je vais me marier, d'accord. Ah, que le ciel te bénisse, mon fils, tu vas te marier. Alors, choisis une fille qu'on puisse faire le mariage. Mais Callot Dante lui a dit, attends, mère, tu sais, les filles du village, je les connais toutes depuis leur naissance. Oh, elles sont jolies, elles sont gentilles, elles sont mignonnes, les pauvres. Mais aucune ne fait battre mon cœur, aucune ne correspond à cet idéal de femme que je voudrais avoir, la femme de ma vie. Je voudrais aller à travers le pays et trouver la femme qui est faite uniquement pour moi, celle avec qui je ne ferai plus qu'un. Je veux trouver la femme idéale, la femme de ma vie. Et alors là, je te promets, je me marierai avec elle. « Eh bien, soit, dit la mère, va, mon fils, va, trouve ta femme. » Mais lui, il lui dit, « Mais, maman, une chose que tu dois me promettre, c'est que, quelle que soit la femme que je ramènerai, tu seras d'accord pour l'accepter comme belle-fille. » La mère lui a dit, « Mais va, mon fils, va, trouve une jeune femme, n'importe laquelle, trouve, pourvu que ça soit une tzigane comme nous, c'est tout ce que je te demande. » Et Callot Dante s'en est allé avec son cheval à travers les forêts, les montagnes, les rivières, il a traversé, il est allé dans les villes, alors il est allé dans les grandes villes du pays. Et là, il en a vu des jeunes filles, il en a vu plein. Il en a vu qui étaient très, très, très belles, d'une beauté. Il en a vu qui étaient très, très, très riches. Waouh, les parents. Il en a vu qui était très... Il en a même vu qui était très intelligente. Mais voilà, aucune d'elles ne faisait battre son cœur. Aucune d'elles n'éveillait chez lui un sentiment profond. Elles se ressemblaient toutes, en fin de compte. C'était pas la femme idéale. Il commençait à être fatigué. Quand un jour, il est arrivé à l'entrée d'un village, un village tzigane, comme il y a dans ces régions, avec des petites maisons basses, blanches, avec un toit de chaume. Il était aux environs de midi. Son cheval était fatigué. Lui, il était couvert de la poussière de la route et il avait faim, il avait soif. Il a vu une petite maison à l'entrée du village. Il s'est dit, je vais demander l'hospitalité, comme ça se fait chez nous, et on va m'offrir certainement quelque chose à boire, à manger, et de quoi me reposer quelque temps avant de reprendre la route. Quand il arrivait devant la porte, il a cogné à la porte était fermée, personne ne lui a répondu, apparemment il n'y avait personne. Alors, il a regardé à travers les carreaux de la fenêtre, et là, elle était là, la femme de ses rêves, celle qu'il cherchait depuis tant d'années, une belle, jeune tzigane. Il l'a reconnue parce qu'elle était habillée en tzigane. Elle était mince, elle était grande, elle avait la taille fine, souple. Elle avait des grands cheveux noirs et des yeux de braise en amande. Et alors, cette jeune fille était en train de mettre la table. Elle avait préparé le dîner, elle s'affairait autour de la table. Mais alors, elle faisait ça avec tellement de grâce, de souplesse, qu'il avait l'impression que ses pieds ne touchaient pas le sol et qu'elle dansait dans la pièce. Alors, n'y tenant plus, Callot Dante a cogné au carreau de la fenêtre. La jeune fille s'est retournée et subitement, elle a poussé un petit cri et hop, elle a disparu au fond de la maison. Callot Dante, lui, oubliant toute la politesse, a ouvert la porte. Elle n'était pas fermée à clé, bien sûr. Il est entré et il a commencé à chercher la jeune fille. Il a cherché, il a regardé, il a cherché partout, dans toutes les pièces, il y en avait deux. Il a cherché, Il a cherché derrière les armoires, dans les armoires. Il a cherché sous la table, il a cherché sur le lit, sous le lit. Il a cherché partout. Et il n'y avait rien dans la chambre et dans la cuisine, il n'y avait rien non plus. Et la seule chose qu'il y avait, tiens, dans la cuisine, à côté de l'évier, il y avait une petite poule noire. Tout ce qu'il y avait, personne d'autre. Une poule noire qui picorait dans un coin, là. Et pendant qu'il était en train de faire ses recherches, voilà que devant la porte s'est présenté un couple de vieux. De petits vieux, un petit vieux, une petite vieille, des tziganes. Apparemment, c'était les propriétaires. Ils sont entrés, ils l'ont regardé, un peu surpris, ils lui ont demandé, mais jeune homme, vous savez que vous êtes chez nous, qu'est-ce que vous faites là? Calodante, un petit peu gênée à son tour, a dit, papo, je suis désolée, je voulais pas vous déranger, je suis un voyageur, j'avais faim, j'avais soif, je voulais me reposer, il y avait personne, je suis entrée pour savoir si je pourrais prendre un verre d'eau, et je ne voulais pas vous offenser. Le petit vieux et la petite vieille, on se regarde et tout. Mais tu es un tzigane comme nous? Mais bien sûr, sois le bienvenu. Mais repose-toi, mais bois de l'eau et vois, la table est mise. Tu vas rester avec nous, manger. Assieds-toi, notre frère, assieds-toi. Nous allons manger ensemble. Alors, tous trois se sont assis à table et ont commencé à manger. Le repas était excellent, bien préparé. Les vieux et la vieille mangeaient vraiment de bon cœur, hein. Calodante, lui, il ne mangeait pas vraiment, il picorait. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'avait pas faim, mais son attention était toujours prise par cette jeune fille qu'il avait vue et il jetait des coups d'œil à droite à gauche, savoir quand est-ce qu'elle arriverait, cette fille. Mais personne ne venait. Alors, à la fin du repas, Calodante a remercié ses hôtes, il leur a dit c'était excellent, vraiment, c'était bien cuisiné, c'était très très bon ce repas. Mais dites-moi, ce repas, c'est pas vous qui l'avez préparé, puisqu'il était déjà prêt lorsque je vous ai vu entrer dans la maison. Vous avez sans doute une fille, ou peut-être une petite fille, je sais pas, qui a préparé ça. J'aimerais beaucoup qu'elle vienne afin que je puisse la féliciter pour ses talents de cuisinière et la remercier. Là, le vieux et la vieille se sont regardés. Ils ne savaient pas quoi dire. Et la vieille dit... Qu'est-ce que tu crois, le fourreau? On lui dit? Ah, je sais pas. Tu sais, c'est délicat. Oh, dit la vieille, mais tu sais, c'est un tzigane comme nous, puis il a l'air très honnête, et il est charmant, ce jeune homme. Ah, mais si tu veux, la pourrie, dis-lui, toi, si tu veux. Et la vieille femme a commencé à dire à Calodante, voilà, mon fils, on ne sait pas. Pour nous, c'est un mystère total, autant que pour toi. On ne sait pas. Ça a commencé il y a à peu près, dit le vieux. Il y a combien de temps? Il y a une semaine à peu près, hein? Oui, le vieux qui dit. Ben, tu vois, c'était en même temps que la petite poule noire, là. Ah oui, la petite poule noire, qu'a dit la vieille. Tiens, celle-là. Celle-là non plus, on ne sait pas d'où qu'elle vient. Elle est arrivée là un beau jour. On a été voir tous les voisins, hein, pour leur demander à qui elle était, mais personne ne la connaît. Alors, en attendant qu'on nous la réclame ou qu'on doive la manger, on la garde et puis on verra bien. Mais vas-y, tu racontes ta vieille, qui dit le vieux, ou quoi? Ah oui, alors donc je te disais, jeune homme, que ce repas, un jour, la semaine dernière, on est rentré du travail à peu près vers cette heure-là, vers midi. Et quand on est entré dans la maison, la table était mise, le repas était prêt. Il n'y avait personne, alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à table, on a mangé. Mais figure-toi que le lendemain, quand on est rentré du travail, pareil, la table était mise, le repas était prêt. Et ça fait, hein, à peu près une semaine, hein, que c'est comme ça tous les jours. Et aujourd'hui aussi, ça a été comme ça. Mais nous n'avons aucune idée de qui a bien pu nous préparer ce repas. Sans doute, peut-être, des voisins avec bienveillants qui nous veulent du bien, on ne sait pas. Calodante était assez, quand même, éberlué. Et du coup, il a demandé la permission de passer la nuit là, pour se reposer un peu plus. Mais bien sûr, lui a dit la vieille. Et elle même est allée chercher de quoi lui faire un lit. Puis elle lui dit, installe-toi dans notre chambre, nous on ira dormir dans la grange. La nuit est arrivée, Calodante s'est installé dans la chambre, mais il ne dormait pas. Il était toujours préoccupé par cette jeune fille. Quand il a entendu minuit sonner au clocher du village, là il a entendu que dans la cuisine il y avait du bruit. Alors, tout doucement, il a entrouvert la porte de la chambre et il a vu, sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, la petite poule noire sauter en bas du rebord de la fenêtre. Secouer ses plumes. Les plumes sont tombées à terre et hop, la merveilleuse jeune fille du matin s'est retrouvée là devant lui. Calodante est restée cachée derrière la porte à observer, savoir qu'est-ce qui se passait. La jeune fille a commencé à débarrasser le couvert, à faire la vaisselle, passer le coup de balai, enfin faire tout ce qu'une jeune fille dans une maison est censée faire. Et quand une heure a sonné au clocher du village, la jeune fille est retournée près du bord de la fenêtre. Elle a pris les plumes de la poule noire qu'elle a mises sur elle et hop, elle s'est retransformée en petite poule noire. Le matin venu, Calodante devait reprendre la route, mais il a demandé au vieux et à la vieille s'ils pouvaient leur acheter la poule. Il a dit, vous savez, votre petite poule noire, là, vous savez pas quoi en faire. Moi, elle me plaît, cette poule, j'aimerais bien la ramener chez moi. Au début, ils se sont défendus, ils ont dit, mais non, on peut pas te la vendre, on sait pas qui elle est, après, si on nous traite de voleur, et peut-être, tu sais, on sait pas combien de temps on va être nourri comme ça, peut-être qu'on aura besoin de la manger, cette poule. Mais Calodante, comme je vous l'ai dit, il était riche aussi, il avait de l'argent pour voyager, c'est pas un vagabond. Il a proposé de l'argent. Au début, il a proposé 3 pièces d'or. Les petits vieux, ils ont bien failli accepter, puis ils ont tenté le coup, ils ont dit, allez. Peut-être un peu plus, il a proposé 10 pièces d'or. D'un coup, 10 pièces d'or, 10 pièces d'or, c'était pratiquement le prix pour s'acheter une nouvelle maison. Alors là, bien sûr, ils n'ont pas hésité plus longtemps. Ils lui ont donné la poule. La petite vieille, elle est même allée dans la grange chercher un petit panier pour mettre la poule dedans. Et voilà Calodante, sur son cheval, retournant chez lui, tenant sa petite poule noire dans son petit panier d'osier. Il arrive à son village. Sa mère l'attend sur le pas de la porte, elle a vu la poussière de son cheval au loin, elle sait qu'il arrive, elle l'attend. Elle le voit arriver Calodante sur son cheval couvert de poussière, tenant sur le bras son petit panier. Calodante, mon fils, te voilà, je t'attendais avec impatience. Alors, dis-moi vite, mon fils, dis-moi vite, as-tu trouvé cette épouse que tu es allé chercher? Calodante la regarde un peu gênée et lui dit, attends, ne te fâche pas, mère. Je n'ai pas encore trouvé. Je l'ai trouvée, mais elle n'est pas encore là. Oh, alors, tu peux pas me présenter ta fiancée? Non, pas tout de suite, mais je te promets, mère, qu'elle sera bientôt là. Ah, oh, bien, mon fils, tu me fais tellement plaisir. J'ai hâte de la voir, ma belle-fille. Elle prend Calodante dans ses bras et elle lui dit, bon, alors, bien, on va attendre. Mais en attendant, donne-moi donc cette poule, là, cette volaille que tu ramènes, je vais la faire cuire pour ce soir. Calodante dit, non, mère, non. Quoi, tu veux pas me donner la poule pour qu'on la mange? Non. Tu sais, mère, celle-là, je la garde pour une grande occasion. Ah oui, je comprends, dit la mère, tu la gardes pour ton mariage. Ah ben, si c'est comme ça que tu vois les choses, d'accord. Allez, elle laisse Calodante qui s'installe dans sa maison. Il installe la petite poule dans sa maison. Il lui met même des petits coussins pour qu'elle se sente bien. Et toute la journée, il la nourrit, il la soigne, il la caresse, il lui parle. Il attend le soir. Quand le soir vient, il se retire dans sa chambre et comme la veille, il reste caché derrière la porte et attend que minuit sonne au clocher du village. Là, minuit sonne, la petite poule noire saute en dehors de son panier, elle secoue ses plumes et hop, elle redevient la belle jeune fille. Calodante, cette fois-ci, ne reste pas caché. Il se précipite sur elle, il l'empoigne, il l'enlace de ses bras vigoureux. La jeune fille se débat, lui il serre plus fort quand elle se débat, et elle se débat, et elle se débat, et elle commence à crier, Calodante, Calodante, lâche-moi, je t'en supplie. Calodante ne veut pas desserrer son étreinte. Calodante, lâche-moi, libère-moi, sinon je vais mourir. Calodante ne relâche pas. Calodante, tu veux ma mort, tu veux me faire mourir. Calodante finit par lui dire, mais non, je ne veux pas ta mort. Bien au contraire, je veux que tu restes avec moi, je ne veux plus te laisser repartir. Depuis que je t'ai vue dans cette maison des petits vieux, je ne vis plus que pour toi, je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Je crois que je suis tombée amoureuse de toi. Tu es la femme de ma vie, je ne te laisserai pas partir jamais. Calodante, si tu ne me laisses pas partir, je vais mourir. Mais Calodante lui dit, je ne te laisserai partir qu'à une condition, c'est que tu m'expliques quel est ce mystère et pourquoi tu te transformes en poule et que de poule tu te transformes en jeune fille et que tu te transformes en poule. Alors la jeune fille finit par lui dire, oui d'accord Calo, je vais te dire, mais lâche-moi, je t'en supplie. Calodante desserre son étreinte et là la jeune fille s'exprime et commence à lui raconter son histoire. Tout d'abord elle lui dit, voilà, on m'appelle Tindir Sibilona et je suis la fille du roi et de la reine des Tziganes. Alors, mon mystère, c'est que il y avait un sorcier dans le village où étaient mes parents. Un vieux, vilain, très laid sorcier. Et il a demandé à mes parents de m'épouser. Mais moi, j'ai refusé de le prendre en mariage. Il était vraiment trop méchant et trop laid. Et comme j'ai refusé de le prendre pour époux, ce méchant sorcier m'a jeté un sort. Et il m'a transformée en petite poule noire. Et je ne peux reprendre ma forme humaine de jeune fille que deux fois par jour, à midi et à minuit. Et cela seulement pendant une heure. Si au bout de cette heure, je ne reprends pas mes plumes de poule, eh bien je mourrai instantanément. Voilà quel est mon triste sort maintenant qu'à l'audente tu le connais. Tu sais comment, quelle est ma vie. Calodante avait écouté sans rien dire et lui dit « Bon, d'accord, j'ai compris. Un sorcier t'a ensorcelé. Mais moi, je connais des sorciers. J'en connais des sorciers, des sorcières. Depuis toujours, on en a chez nous. Mais quand il y a un mauvais sort, il y a toujours un moyen de rompre ce sort. Alors, tu dois bien connaître, il doit bien y avoir quelqu'un qui connaît un moyen de rompre ce sort. » La jeune fille lui dit « Tu sais, mes parents sont riches. Ils ont fait venir tous les sorciers, les mages, tous les grands prêtres du pays, même les charlatans, les faux magiciens, mais tout le monde est venu. Personne n'a pu enlever ce sort. Et j'ai donc été... Je suis partie de chez moi parce que je ne voulais pas imposer à mes parents la vue de ma transformation. Et je resterai comme ça jusqu'à la fin de mes jours. » Et Calodante lui dit « Mais écoute, non. Moi, je connais les choses. J'ai été dans plusieurs pays. Je sais comment ça se passe. Il y a un moyen. » Et la jeune fille lui dit « Certes, certes, tu as raison, il y a toujours un moyen. Il y a un moyen. Mais il est tellement irréalisable, c'est tellement impossible que ça ne pourra jamais se faire. Il y a un moyen et que ne le disais-tu plus tôt ?» lui dit Calodante. « Dis-moi, ce moyen, lequel est-ce » Et Tindir Sibilona lui dit « Ben écoute, tu vas rire, si c'était pas si dramatique, tu rirais. Le seul moyen pour que je redevienne définitivement la jeune fille que j'étais, ça serait, mon Dieu, ça serait qu'un homme accepte de m'épouser, mais de m'épouser sous ma forme de poule. Or, je ne connais au monde aucun homme qui soit assez fou pour se marier avec une poule. Mais moi, je suis cet homme-là, lui dit Calodante. Moi, je t'épouserai, je t'aime à la folie et je t'épouserai, mais quelle que soit ta forme, que tu sois une poule, que tu sois n'importe quoi, je veux vivre avec toi, je t'épouserai. Compte sur moi, je le ferai. » Sur ce, ils avaient parlé et tout, une heure a sonné au clocher du village, la petite poule noire a repris ses plumes, la jeune fille a repris ses plumes et hop, elle s'est transformée en poule noire. Voilà pour cette journée-là. Dès le lendemain, Calodante a dû faire les préparatifs avec sa mère pour le mariage. Alors avec ça, il a laissé sa mère s'occuper de tout ce qui était la nourriture, etc. Mais il fallait lui qu'il aille à l'église pour demander au curé de le marier. Alors l'église était il y avait une grande place, les maisons étaient autour, et l'église était au milieu de la place. C'était une vieille église, de ces vieilles églises toutes basses, qu'on ne faisait pas avec des grands vitraux, hein, une vieille petite église, très sombre à l'intérieur. Calodante est entré dans l'église, et dans l'église, tout au fond, vers l'autel, il a vu monsieur le curé. Alors lui aussi était très sombre et très vieux, il était tout petit aussi, comme l'église, tout ratatiné. Il était tellement vieux, ce curé, que plus personne au village ne se rappelait depuis quand il était là. Mais enfin, il était là, petit curé, à moitié sourd et presque aveugle. Calodante est allé vers lui, et lui a dit « Mon père, je voudrais que vous acceptiez de me marier le samedi qui vient là. » Le père, il a regardé Calodante, il a dit « C'est toi Calodante, c'est toi mon fils. » « Oui, » a dit Calodante. « Toi Calodante, tu vas te marier. » « Oui mon père. » « Alléluia Seigneur mon Dieu, Calodonte va se marier. Viens dans mes bras, mon fils, que je t'embrasse. Mais c'est ta mère qui va être contente. Depuis le temps qu'elle vient tout le temps, à chaque fois qu'on fait ce qu'elle pleure en me disant « Mon fils Calodonte n'est pas encore marié. » Oh, mais bien sûr que je vais te marier avec un grand, grand, grand plaisir. Alors, vite, présente-moi ta fiancée. Où est-elle ? Ah, mon père, elle n'est pas encore arrivée. Vous savez, elle sera là samedi. Tout ce que vous avez à savoir pour le moment, c'est que c'est une jeune fille tzigane de très bonne famille et que son nom est Tindir Sibilona. Puis Calodonte s'en est retournée à faire les préparatifs du mariage. Alors, vous savez, un mariage tzigane, hein, vous savez tous comment c'est, vous avez dû en voir dans la région. C'est pas, on n'envoie pas des cartons d'invitation, hein, tout le monde vient. C'est-à-dire que le jour du mariage de Calodonte, tout le village était réuni à la place, dans la grande place du village, devant l'église. Tout le monde, il y avait tout le monde. Calodonte est apparue à l'entrée de la place sur son beau cheval, dans un beau costume de mariée, hein, il avait vraiment fait des frais, il avait vraiment bien peigné ses cheveux, il avait tous ses bijoux que lui avait laissé son père, et il tenait sur le bras une petite poule noire, à qui il avait habillée avec une robe de mariée qui bien sûr était 20 fois trop grande pour elle. Les gens le regardaient abasourdis. Sa mère l'a vu avec cette poule. Elle en a eu une crise, une attaque, elle est tombée par terre, il a fallu lui donner des gifles pour qu'elle se réveille. Et les gens ont commencé à s'esclaffer, à bouffer de rire. Calodonte est fou ! Qu'est-ce qui lui prend, Calodonte ? Mais il va quand même pas se marier avec une poule. Hé, vous savez quoi, Calodonte ? Il se marie avec une poule ! Et tout le monde était mort de rire et on commençait à entendre tout, des jacasseries et tout, et des cotes, Calodonte a perdu la tête, Calodonte se marie avec une poule, on n'a jamais vu ça, la mère elle était en larmes par terre, on se roulait par terre tellement elle était désespérée. Et alors là, tout le monde à part la mère était mort de rire, et même les ânes, et même les chiens, et même les fourmis, tout le monde. Mais Calodonte ne s'est pas démonté, il a traversé la foule avec sa poule en robe de mariée, il est descendu de son cheval, il est entré dans l'église, tous les autres ont suivi. Sa mère a suivi aussi, puisqu'on l'avait ranimée. Alors là, les moqueries étaient moins fortes, on était dans une église, il fallait un peu de respect, mais on entendait les chuchotements. Calodonte, vous avez vu Calodonte ? Et s'il va vraiment se marier avec une poule ? Mais oui, il va aller jusqu'au bout, vous allez voir, il se marie avec une poule, mais on n'a jamais vu ça, etc. Tout était cote, des moqueries, et tout le monde se moquait, même les ânes, même les chiens, même les fourmis, tout le monde. Le curé, lui, comme je vous ai dit, pauvre bougre, petit vieux ratatiné à moitié sourd et presque aveugle. Il a vu arriver Calodonte avec sa mariée. Hein, il a vu la robe de mariée, donc la mariée, elle était dedans. Il ne faut pas poser de questions. Et lorsque le curé a commencé à prononcer les mots rituels qu'on dit dans ces cas-là, « Calodonte, acceptes-tu de prendre pour épouse... » Comment elle s'appelle déjà ? Tindir Sibilona, oui. Acceptes-tu de prendre pour épouse Tindir Sibilona ici présente ? Et quand Calodonte, d'une voix très assurée, a répondu « Oui, je le veux », la petite poule noire s'est secouée et hop ! À la place est apparue la merveilleuse jeune fille, l'élu de son cœur. Et alors là, dans sa belle robe de mariée, elle était magnifique, encore plus belle qu'elle n'avait jamais été. Mais... fini les moqueries, fini les cotes. Tout le monde s'est mis à applaudir et ce n'était plus que des hurrahs et des bravos dans l'église. La mère de Calodonte, elle est retombée dans les pommes une autre fois, il a fallu la ranimer à nouveau. Mais tout le monde était heureux et on lançait tout ce qu'on trouvait en l'air et ça criait. Tout le monde criait, et même les ânes et même les chiens et même les fourmis, et tous sont sortis et ont accompagné le cortège et ils ont fait un mariage. Mais un mariage. Le plus beau des mariages qu'on ait jamais vu dans le pays. C'est-à-dire qu'il y avait tout le village. Mais la nouvelle s'est répandue tout autour. C'était quand même la fille du roi et de la reine des Tziganes. Ils sont venus de tout le pays, apportant des victuailles, apportant des cadeaux. Tous les musiciens sont venus de tout le pays. Et bien sûr, le père et la mère de Tindir Sibilona sont venus aussi, les bras chargés de cadeaux. Ils ont retrouvé leur fille bien-aimée, Calodonte a été accueilli, on lui leur a offert une superbe maison. Et le mariage a duré, mais même pas, on dit 3 jours et 3 nuits, et même pas, on dit 8 jours et 8 nuits, mais moi je crois que c'était au moins 1 an, ça a duré ce mariage, tellement c'était beau, et tellement tout le monde était heureux, et même les ânes, et même les chiens, et même les fourmis.
Gelem gelem lungo nedro menza maladile bartale romenza ah romale Amare chavale, andazare, catare, bucare, cataraven, amare chavale, andazare, catare, bucare. Ah, romale, ah, chavale, ah, romale.
C'était il y a longtemps, très longtemps, peut-être même avant. C'était, écoute-moi bien,
tu vas comprendre.
C'était, tu te souviens, il y a très très longtemps, c'était à l'époque où seuls les anges jouaient de la musique. Or, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, une petite note de musique était tombée à travers quelques fentes du ciel. Elle s'était retrouvée au milieu des étoiles. Des étoiles trop brillantes, trop fières, trop orgueilleuses, trop fières de leur propre lumière pour pouvoir l'accueillir. Il faut dire que la petite note de musique, non seulement elle était toute petite, comme ça, mais en plus elle était toute noire. Alors, rejetée par les unes, rejetée par les autres, la petite note de musique a été précipitée sur la terre. C'était l'hiver. Il faisait froid, très froid. Et là, la petite note de musique, engourdie par le froid, s'est endormie sur un buisson que le givre avait couvert de fleurs blanches. Et puis, elle est restée là longtemps, très longtemps peut-être. Un jour, un jeune gitan qui passait dans cette forêt pour ramasser du bois, tu sais, pour faire le feu autour des caravanes, pour faire cuire, il ramassait ses branches d'arbres sèches et il a remarqué cette petite note. Il ne savait pas ce que c'était, la musique n'existait pas sur la terre. Il a juste vu ce petit point noir là sur le givre blanc. Il s'est approché, délicatement l'a pris entre ses doigts pour la regarder de plus près. Il ne savait pas ce que c'était, mais il se demandait ce que ça faisait là. Il allait la rejeter quand il a senti une sorte de vibration
Vous savez, comme une pulsation. Comment dire? Ça faisait comme un petit cœur qui bat. Tatam, 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 tatam. Alors, il n'a pas voulu la jeter. Il l'a mise dans la poche de sa chemise, là, bien au chaud, tout près de son cœur. Et puis, il l'a oublié là pendant longtemps. Très longtemps, peut-être. Or, un jour que ce jeune homme était retourné chercher du bois dans la forêt, il ramassait ses branches sèches, il a remarqué une espèce de bout de bois qui n'était pas comme les autres. Il était très, très étrange, celui-là. Il n'en avait jamais vu de tel. Il a ramassé. Je vais vous dire, moi, qu'est-ce que c'était, ce bout de bois. C'était une guitare. Alors, d'où est-ce qu'elle venait? Sans doute était-elle aussi tombée du ciel. Un ange l'avait laissée tomber. Je ne vois pas d'autre explication. Ça n'existait pas avant. Mais il l'a ramassé, ce bout de bois. Et puis, il a commencé à regarder. Alors, c'était, hein, vous voyez, c'était un peu arrondi, comme ça, les formes, avec une espèce de branche qui partait un petit peu plus loin que les autres, et puis des petites lianes qui étaient tirées d'un bout à l'autre de la branche. Et d'abord, il a commencé à taper sur le fond, ça résonnait, ça faisait pom-pom-pom. Puis quand il a retourné, il a commencé à pincer les petites lianes. Cling, cling, cling. Ça faisait des bruits étranges. Il n'avait jamais entendu ce genre de bruit. Et quand il a commencé, non pas à pincer, mais à caresser les cordes avec ses doigts, il s'est rendu compte que les sons qui en sortaient étaient très agréables à entendre. Alors il a laissé courir ses doigts comme ça, sur ses cordes. La petite note de musique, qui était restée là bien au chaud, dans sa chemise tout près de son cœur, quand elle a entendu ça, elle a entendu les autres notes de musique. Elle s'est échappée de la poche et elle est allée rejoindre les autres notes de musique. Et là, alors là, la petite note de musique frétillait dans tous les sens. Elle était tellement heureuse. Et elle faisait comme un véritable chef d'orchestre avec les autres notes. Et toutes les autres notes se sont mises à faire de la musique. Mais vraiment pas de la musique des anges, là, de la vraie musique, du flamenco, des choses vraies, fortes, qui apportaient la chaleur, la lumière. Il n'y avait plus d'hiver, il faisait plus froid. Ah, qu'est-ce qu'elle était heureuse, la petite note de musique, d'avoir pu réveiller les autres notes comme ça. Mais c'est que, autour, il y avait les autres gitans qui étaient là, qui étaient tristes, malheureux, il faisait froid, ils avaient faim. Ils ont entendu ça, cette musique qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont commencé à relever la tête. Ils ont commencé à murmurer du bout des lèvres des airs qu'ils entendaient comme ça. Ils ont commencé à taper dans leurs mains pour marquer le rythme. Une jeune fille s'est levée, claquant le sol du talon pour marquer le rythme, claquant dans ses doigts, et a commencé à danser autour du feu. La 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 la. Et bientôt, tous étaient heureux et tapaient dans leurs mains. Ils n'avaient plus ni de faim ni de froid qui tiennent. Ils étaient vraiment transportés par cette musique. Mais c'est pas tout. Parce que figurez-vous qu'autour de ce campement des gitans, il y avait des gadjets dans leur maison, tout autour. Il faisait nuit, la nuit était tombée, leurs volets étaient fermés, ils étaient rentrés chez eux. Mais de loin, ils ont entendu du bruit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les volets, ils se sont mis à la fenêtre. Certains ont commencé à sortir sur le pas de la porte et se sont demandé, « Eh bien, Madame Michu, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi ce bruit ?» Ah ben c'est les gitans là qui font le barouf, ils font la... On sait pas qu'est-ce qu'ils font, il y a beaucoup de bruit, hein. Les plus hardis ont commencé à s'approcher du campement pour voir qu'est-ce qui se passe. Les moins hardis ont suivi, parce qu'il y a toujours ceux qui osent et puis il y a ceux qui suivent. Ils ont commencé peu à peu à entourer le camp des gitans. Puis, ne sachant pas ce qui se passait, il y en a un qui est rentré dans le camp, suivi par les autres, qui peu à peu sont entrés dans le camp, se sont approchés du feu. Et ils ont commencé, chose extraordinaire, vous savez, c'était pas difficile de rentrer dans le camp. Il n'y avait pas de barrière. La seule barrière qu'il pouvait y avoir, c'était juste dans leur tête. Donc dès qu'ils sont rentrés, tout le monde est entré avec eux. Ils ont commencé, ce qui était extraordinaire, à parler aux gitans, dit-on. Ça leur était encore jamais arrivé. Et ils leur ont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'on peut savoir? Les gitans ont dit, ben il se passe rien, regardez, on chante, on danse. Mais il y a une fête, il y a quelque chose, dites-nous,
Non, c'est la joie, c'est notre joie de vivre qui sort avec la musique. Mais venez donc, mais venez, approchez-vous du feu, venez partager notre joie. Et les gadgets ont commencé, eux aussi, à taper dans les mains. Voilà que les femmes des gadgets ont relevé le bord de leur jupe et se sont mises autour du feu, ont commencé elles aussi à danser avec les gitanes. Et c'était la première fois que tous ensemble, sans se savoir pourquoi, sans se poser de questions, se sont mis à faire la fête ensemble. Et ça a duré, ma foi, toute la nuit. Et heureusement que c'était, ils n'allaient pas travailler le lendemain, les gadgets, hein, parce que ils ont eu du, je vous le dis, ils ont mis 2 ou 3 jours pour s'en remettre de cette fête. Bien sûr, chacun est allé chercher dans sa maison quelque chose pour manger et pour boire et pour tenir le coup toute la nuit. Et c'est comme ça que cette musique des anges a fait son travail. Et alors, chez nous, on dit comme ça. Que depuis que la musique des anges est descendue sur la terre, elle nous aide tous, qui que nous soyons, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos convictions, notre religion, quelles que soient nos conditions sociales de vie, qui qu'on soit, quelle que soit notre couleur de peau, elle nous aide tous à vivre ensemble, à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, à nous apprécier les uns les autres et avec un peu de chance même, à nous aimer les uns les autres. En tout cas, c'est ça que disent les guitares des gitans.
Fin de cette séance de conte, Nouka nous a fait aussi un très 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 beau cadeau en chantant a cappella.
Alors je vous préviens, je ne suis pas chanteuse, hein, mais je fais ce que je peux, c'est pour le plaisir. Vous la connaissez, il y en a qui la connaissent, hein. Si vous la connaissez. Peut-être que je ne me rappelle plus les paroles, parce que ça fait longtemps, longtemps que... Si je ne me rappelle plus les paroles, vous m'aiderez ceux qui connaissent. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle au bord du bistrot. Scala une roulotte promène dans sa tête, et quand elle galope, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Et dans notre bistrot,
personne ne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête. Les joueurs de belote s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, moi j'en étais sûr, ça je le savais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand music-hall voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête, il y a du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi sacré gitan, qui sentait le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir. Da 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 da.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors exceptionnellement, eh bien on va rester sur les contes de Nouka. Je vais pas vous lire de poème aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on se rattrapera la prochaine fois. En attendant et en attendant la nouvelle année, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, la tchodrome. Thank you.